On va écouter un petit extrait ici de la bande-annonce d'un documentaire choc qui s'appelle La Purge et on va parler à son réalisateur.
Aujourd'hui, nous parlons enfin du rôle qu'a joué le Canada dans l'oppression, la criminalisation et la violence systémique à l'endroit des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et bispirituelles.
Aux années 50, il y avait une espèce de chasse aux sorcières. C'était interdit aux soldats d'être homosexuels. Cette politique a continué jusqu'à 92.
Le plus honteux, c'est que mon gouvernement ait fait ça.
Tous mes amis, ma famille, disaient « Steve va être le chef d'état-major des Forces canadiennes une bonne journée, il adore ça. »
On a mis du monde à la porte, il y a du monde qui s'est suicidé. On a détruit des vies.
Ils m'ont recraché dehors comme un vulgaire déchet. C'est qui fait le mal dans le cas? Comment vous faites l'amour?
J'ai passé à ça de me tuer.
Je n'ai jamais oublié. C'est ça qui va être écrit en bas de ma pierre, pas mal, je te jure.
Ouais, je vais prendre une expression québécoise qu'on aime bien entendre, mais ça rentre dans le dash. Alors, c'est une période de notre histoire pas si lointaine, puis c'est une période épouvantable. Entre 1950 et 1996, au moins 30 000 Canadiens et Canadiennes ont été fichés par le gouvernement fédéral en raison de leur appartenance à nos communautés de LGBTQIA+. 9 000 ont perdu leur emploi dans les forces armées, la gendarmerie royale, la fonction publique, parce qu'elles étaient queer. Cela même si le gouvernement de Pierre Trudeau avait auparavant décriminalisé l'homosexualité en 1969 et bien après l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982. Donc, on a entendu au début, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui s'excuse, qui reconnaît que cette discrimination-là a été systémique auprès de nos communautés. C'est connu sous le nom de « purge ». Et c'est une politique interne qui visait donc à écarter les personnes LGBT de la population active, justifiée par l'argument selon lequel elles représentaient une menace à la sécurité nationale. Ça a dévasté la vie et la carrière de milliers de personnes, ce qu'on a entendu. Là, c'est un petit exemple de ce que vous entendiez dans le documentaire « La Purge ». Et nous recevons donc son réalisateur, Orlando Arriagada. Orlando, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
Alors Orlando, chaque fois que j'ai une nouvelle personne à l'émission, je veux juste m'assurer qu'on utilise bien le pronom « il » et les accords masculins avec vous ou avec toi.
Oui, oui. Orlando, « il ».«
Il ». ».«
Il ».
Oui, bien, commençons par le début. Comment est venue l'idée de faire ce documentaire?
L'idée, il vient de Nathalie Derry et Sylvie de Bellefeuille. Nathalie, c'est quelqu'un qui est membre de la communauté. Qui a fait une recherche préliminaire et qui m'a précepté ce projet-là en tant que producteur. Parce que moi, j'ai produit, mon premier métier, c'est producteur. Et quand j'ai vu l'importance et aussi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grande information et que les publics, surtout québécois, canadiens, n'étaient pas informés ou pas. Il y avait une grande connaissance de ce phénomène-là. J'ai décidé de porter le film parce que j'ai une sensibilité envers les minorités, moi-même en étant un immigrant. Je pense que le Canada, quand même, pour moi, c'est un pays avec une grande démocratie, mais ça m'a vraiment surpris de savoir que cette période-là de l'histoire a été cachée, ou mise de côté, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup de monde qui ont souffert de ça. J'ai décidé de porter le film, il est réalisé et il est produit en même temps.
Ce film est basé sur des témoignages assez choquants, je dois dire. Pour une raison d'autre, j'ai un petit trou de mémoire, là, mais il y a cette femme là, qui dit à un moment donné, j'oublierai jamais, là, elle est super fâchée. Là, et ça avait. Puis il y a Martine Roy aussi qu'on entend parler.
Lucie Laperre.
Oui, et puis. C'est quand même, puis qu'elle pardonnera jamais, puis sur sa tombe, ça veut dire, comme elle dit, je n'oublierai jamais. Comment toi, t'as reçu ces témoignages-là? Comment t'as vécu ça? Comment ça t'a interpellé comme personne?
Je dirais qu'au premier lieu, quand on a choisi les personnages de ce film-là, on voulait vraiment des gens qui... Il pourrait porter et aussi être capable de montrer ça à la caméra à visage découvert. Parce qu'on avait quelques personnage dans l'étape de recherche. Tu dis, oui, je vais participer, mais je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Donc, ça, c'est vraiment sine qua non pour nous parce qu'on voulait des gens qui assumaient ça, même si c'est très difficile, parce que à chaque fois que chacun des personnages répète son histoire, c'est douloureux parce que dans le cas de Lucie, la père, elle, sa vie était cassée. Oui. Il a tombé dans l'alcool, dans la drogue, dans la même chose que Martin Roy. Donc, et pour moi, avoir des gens qui étaient capables d'assumer ça à la caméra, de façon, je dirais, transparente, même si c'est très douloureux, pour moi, c'était, je dirais, j'étais un témoin privilégié avec la caméra, on voulait partager ça. Et je crois que c'est un des éléments qui fait que le film puisse toucher monsieur et madame tout le monde, parce que c'est des gens qu'on peut croiser dans la rue, que c'est pas ta soeur, ton frère, des gens qui sont proches de nous, mais qui on sait pas qui ont souffert cette période-là. Il peut y avoir une longue période quand même, c'est pas une année, c'est 2, 3, 4, 5 ans, de façon systémique et organisée. Donc, pour moi, je me sens privilégié et en même temps, j'ai essayé d'avoir un regard respectueux et sans devenir non plus, faire non plus un documentaire sensationnaliste, sans être voyeur. Je pense que les mots qui me viennent en tête, c'est le mot empathie et résilience, parce qu'il faut les entendre, il faut être porteur de cette histoire-là. J'utilise tout le temps la même figure métaphorique, c'est comme la frontière avec le Mexique et les États-Unis. Je suis le porteur des ballons qui va passer de l'autre côté de la frontière.
Oui.
Ça, je crois qu'il fallait, être attentif et prendre notre temps, parce que l'autre angoisse en tant que réalisateur, c'était, OK, comme on dit dans le milieu, je ne vais pas faire juste un show de chaise. Des gens qui parlent à la caméra, qui donnent son témoignage, ça peut être très, très plat. Donc, on a pris une journée de tournage par personnage, on a arrêté, on continuait, et parfois, c'était difficile, c'était très, très difficile, mais j'avais cette espèce de responsabilité d'avoir un regard respectueux et aussi quand même qui soit choc, parce que il faut brasser la caisse, comme on dit ici, non? Il faut que les gens vraiment s'en interpellent et que c'est des histoires des êtres humains qui ont été cassés.
C'est une histoire très noire de notre histoire de droits humains au Canada, qui se vante souvent d'être je vais reprendre une expression qui n'existe pas vraiment, mais le plus meilleur pays du monde, pour citer quelqu'un qui ne l'a jamais dit, mais en tout cas. C'est un documentaire aussi qui s'ouvre avec la reconnaissance par Justin Trudeau que ces violences-là ont été systémiques et qu'elles ont été donc commises jusqu'en les années 90. Et ça a été fait en 2017, hein, cette déclaration-là. C'est important pour toi de commencer avec ça?
Oui, parce que, attends, moi, je viens du Chili, ça fait 30 ans que je suis ici. Il y a une des choses qui m'a tout le temps surpris ici au Canada, c'est ce qu'on appelle les choix de société. Quand on dit un choix de société, on décide que la société québécoise, canadienne, assume certaines responsabilités, comme la responsabilité de la culture, la responsabilité de l'aide sociale. Et dans ces cas-là, voir les premiers ministres, peu importe son alliance politique, parce qu'on est au-dessus de ça, ce qu'ils prennent et ils disent, moi, au nom du bon gouvernement qui a fait X erreur pendant une longue période, je m'excuse envers ces gens-là, je m'excuse aussi envers la société, parce que c'était systémique, et la quantité de vies qui ont été cassées et détruites, c'est incroyable. Donc, de savoir que le gouvernement, il y en avait une liste de 30 000 personnes qui avaient il a été surveillé, ils ont été pas persécutés, mais surveillés parce qu'on avait l'orientation sexuelle, ce n'était pas la correcte, la normative. Moi, ça me semble vraiment terrible, horrible, mais que le gouvernement il prend la responsabilité de dire oui, on l'a fait, on ne veut plus le faire. Et ça qui est important, je pense que quand on parle de résilience, c'est ça, on dit OK, on s'excuse. On continue à avancer, même s'il y a des gens qui les excuses, c'est pas assez parce que sa vie était cassée.
J'aimerais conclure avec cette question-là, Orlando. Quel est le message que tu veux passer ou qui devrait être passé par ce documentaire?
qu'il ne faut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des mouvements de droite, justement, de la droite religieuse dans quelques provinces au Canada. Aux États-Unis, la même chose. Je crois qu'on est en train de construire une société plus égalitaire et respectueuse. On a fait un bon bout de chemin et ce bout de chemin n'est pas fini encore, surtout avec la communauté queer. N'est pas fini. On doit continuer à avancer, mais c'est partie de l'histoire. Il faut que les gens continuent à les intégrer. J'aimerais beaucoup que ces films-là ils passent dans les écoles, dans l'armée, dans la fonction publique. C'est ça mon intention, c'est que ces films-là soient un outil, pas un outil de propagande, je dirais un outil de réflexion et de résilience. De résilience.
Alors, c'est un film, en fait, un documentaire qui est disponible présentement sur la plateforme Tout.tv. On l'a vu ce week-end à la télévision. Merci beaucoup, Orlando Arriagada. Merci beaucoup pour ce beau documentaire et merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Très gentil, merci beaucoup.
Merci.